Alors, je suis ici pour vous parler de mathématiques et économie. Alors, spécialement en France, disons, c'est un sujet un peu chaud parce que, disons, en France, on a l'impression, on respecte beaucoup les mathématiciens parce qu'on a l'impression qu'on ne comprend pas du tout ce qu'ils font, et donc ça va être très difficile. Donc, on admire beaucoup. Les économistes, par contre, on a l'impression qu'on comprend très bien ce qu'ils font et qu'à la limite, on le ferait beaucoup mieux qu'eux. Et vous trouverez donc beaucoup de gens qui vous expliquent que mathématiques et économie, c'est le mariage de la carpe et du lapin, donc que ce n'est pas bien. Il y a même eu une polémique récente dans un journal, et puis comme moi j'ai horreur des polémiques, j'ai choisi de consacrer le début de cette conférence à un grand sujet de consensus national, un sujet qui nous intéresse tous, et c'est le foot. Nous étions tous là mercredi soir, hein, donc la France a battu l'Hollande en 3 à 2. Nous serons donc tous là dimanche à 20h45, si mes souvenirs sont exacts. Et le sujet du foot et de l'équipe de France en particulier m'occuperait, je pense, pour occuper l'Université de tous les savoirs jusqu'à la fin de l'année. Mais enfin, mon temps étant limité, je me consacrerai juste à un bref aperçu du foot et particulièrement à la question des pénaltys. Alors, nous allons parler quelques instants de l'angoisse du gardien de but au moment du pénalty, ce qui est d'ailleurs le titre d'un très beau livre de Peter Handke que vous avez peut-être lu dans sa langue d'origine. Alors, les pénaltys, attention, pourquoi l'économie? Les pénaltys, c'est une chose tout à fait intéressante, hein. Je vous rappelle que 50% des matchs, à peu près, se terminent avec une différence de un but ou de pas du but du tout, donc le pénalty est une chose très importante. Et la dernière finale de la Coupe de France entre Calais et Nantes a été gagnée par Nantes sur pénalty. Question, combien valait ce but? Oui, alors attention, hein, donc je vais vous parler d'économie. Ce but-là, c'est la qualification pour la Coupe de l'UEFA. C'est donc des recettes, etc. Disons, des estimateurs sérieux disent que ce but-là, ça valait au moins 100 millions de francs. Oui, entre recettes pour le club, plus bien entendu des primes pour le joueur, etc. Bon, disons, donc le joueur, au bout du pied, c'est 100 millions de francs. Alors, tout ceci pour vous dire que le type qui fait ça, il réfléchit. Et le gardien qui est en face, il réfléchit aussi. Donc, si je parle des pénaltys, c'est parce que vous êtes absolument certain que ce n'est pas des choses que les gens font au hasard. Et donc, si on veut bien comprendre le comportement humain, eh bien, voici quelque chose où on ne peut pas dire que c'est une expérience de laboratoire, on ne peut pas dire que ce n'est pas du monde réel, c'est vraiment du sérieux. Alors, comment se passe un pénalty? Alors, vous le savez tous, le joueur qui tire, le tireur, doit frapper la balle d'un seul élan. Le gardien de but n'a pas le droit de bouger avant que la balle ne soit frappée. Le tireur n'a pas le droit de faire de feinte, donc c'est un coup. Et la manière dont ça se passe en pratique, bien entendu, une fois que la balle est frappée, il est trop tard pour prendre une décision, et ça veut dire que, comme chacun sait, avant la frappe, le gardien de but doit décider s'il saute à gauche, s'il saute à droite, ou s'il ne bouge pas, ce que j'appelle le centre. Et bien entendu, avant la frappe, le tireur doit décider de quel côté il tire ou s'il tire au centre. Alors, les gens s'entraînent beaucoup pour ça, hein? C'est-à-dire, pour vous donner, disons, ça fait partie de l'entraînement régulier des gardiens de but. Nous avons parlé à des gardiens de but, des Tori à Monaco, pour ceux qui se souviennent. Et les gens se connaissent très très bien. Hein? Ce sont des professionnels, les gardiens de but à l'entraînement et à leur tir d'état. Il sait qui est en face de lui, il connaît son adversaire. Et notamment, je vous rappelle que les tireurs ont tous un bon pied et un mauvais pied. On dit toujours qu'un gaucher tire naturellement à droite. Disons, du pied gauche, on tire à droite, du pied droit, on tire à gauche. Donc, les gardiens de but savent ça, le joueur sait ça. Si vous tirez du bon pied, bien entendu, vous tapez avec plus de force. Mais enfin, maintenant, question. Mettez-vous à la place du tireur, mettez-vous à la place du gardien. Qu'est-ce que vous allez faire? D'accord? Genre de choses qu'on peut dire. Le tireur va toujours tirer de son bon pied. Mais le gars en face le sait très bien. Et ces gens le jouent tous les dimanches. Donc le gardien de but, s'il sait qu'il tire toujours du côté de son bon pied, il sautera toujours du côté du bon pied. Et donc c'est une mauvaise stratégie. Le tout pour, je vous le rappelle, plusieurs centaines, 100 millions de francs, etc., etc. Alors, j'attire votre attention maintenant. Donc, je vous rappelle, il y a trois décisions possibles, tirer à gauche, tirer à droite, tirer au centre, pour le tireur. Il y a trois décisions possibles pour le gardien, se lancer à gauche, se lancer à droite, se lancer au centre. Et maintenant, pour ceux, si jamais vous trouvez que la conférence vous ennuie ou que je ne suis pas assez clair, je vous convie à réfléchir à la question suivante. Que vont-ils faire? Que va faire le gardien? Alors, il y a une première solution dont certains d'entre vous se rappellent, et c'était la solution de Jodassin. Je vous rappelle que dans Jodassin, il y a cette phrase admirable. « Heureusement, dans ma prison, je me suis fabriqué en quelque temps des souliers avec des talons derrière et des talons devant, si bien que mes geôliers ne savaient pas de quel côté j'allais. Ils ne m'ont vu passer, ils n'ont pas pu m'attraper. » Vous vous rappelez de cette chanson? Ah ben oui, mais vous savez, j'avais fait ça, mais je n'ai pas été assez bon pour mettre la musique. Alors donc, il y a cette solution-là, qui était la solution de Jodassin auquel je rends hommage. Il y a des faux. Je vous pose une question. Le tireur, qui choisit le... Vous voyez, vous allez faire des proportions, c'est-à-dire vous allez analyser des matchs. Et on a des bases de données, ça, des bases de données, hein, c'est-à-dire vous prenez les matchs, vous prenez 200, 300 matchs, le championnat de France, etc. Et maintenant, vous posez la question suivante. À votre avis, qui va choisir le centre le plus souvent? Est-ce que vous pensez que le tireur va choisir de tirer au milieu plus souvent que le gardien va choisir de rester au milieu? Est-ce que vous pensez que le tireur et le gardien vont choisir de rester au milieu à peu près, mettons 10% du temps pour l'un, 10% pour l'autre? Est-ce que vous pensez au contraire que c'est le tireur qui choisira le centre plus souvent ou le gardien? En d'autres termes, hein, le tireur, le gardien doivent faire des choix indépendants. Ce qu'ils choisiront en fait, ce sont des probabilités. Hein, tantôt ils sont trop à gauche, tantôt ils sont trop à droite, tantôt ils resteront au milieu. Comment vont se comparer ces stratégies? Comment vont se comparer ces stratégies? De même, le tireur a un bon pied. Tout le monde connaît le bon pied du tireur. Donc imaginez donc, que le gardien sait que le tireur, son bon pied est le pied droit. Et que donc, il tire plus fort s'il tire à gauche. Alors, de temps en temps, le tireur va tirer à gauche, de temps en temps, il va tirer à droite, de temps en temps, il va tirer au milieu, de temps en temps, le gardien va sauter à gauche, de temps en temps, le gardien va rester au milieu, de temps en temps, il va sauter à droite. Lequel va choisir le plus souvent le bon pied du tireur? Lequel va aller le plus souvent à droite si c'est le bon pied du tireur? Alors voilà une question que je pose et je vous laisse y réfléchir. Est-ce qu'elle est claire? Vous pouvez penser qu'il n'y a pas de différence et que tous les deux, si on fait les fréquences, ils resteront au centre et ça va faire exactement pareil. Mais vous pouvez penser autrement. Est-ce que ma question est claire? Non? Elle l'est? Voilà. Hein, donc, je vous préviens, après ce bref intermède, je reviendrai sur la question et je vous interrogerai à la fin. Parce que je voudrais que vous vous fassiez une opinion. Vous voyez, ce n'est pas une question anodine. Je vous rappelle que c'est des questions claires. Bon, s'il y avait eu deux trucs. Alors, ceci étant, et étant certain d'avoir attiré votre attention, et en espérant ne pas me perdre dans mes transparents, j'aborde un sujet qui est donc les mathématiques et l'économie. Et mon exposé va être divisé en quatre parties, cinq si on rajoute l'introduction. L'une, c'est la notion de modèle. L'autre, c'est l'apport de l'économie aux mathématiques. L'autre, ce sera l'apport des mathématiques à l'économie. Et enfin, une brève conclusion. Alors, nous commençons par la notion de modèle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Eh bien, allons-y. Le mieux, c'est d'expliquer sur un exemple. Alors, voici quelques phrases que vous avez souvent entendues. Vous avez sûrement entendu ou lu « Les immigrés prennent le travail des Français ». Non, je ne conteste pas. Je dis, vous l'avez entendu et lu si vous l'avez... Bon. Moi, je l'ai entendu et moi, je l'ai lu. Vous avez aussi entendu ou lu que le passage aux 35 heures va créer des emplois. Moi, je l'ai entendu, moi, je l'ai lu. Alors, je pose la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Tout simple. Alors, comment allons-nous décider un truc pareil? Eh bien, là intervient la notion de modèle. Je vous fais remarquer que les deux questions portent sur le travail. Et la question qui va se poser maintenant est de savoir qu'est-ce que c'est le travail. Et vous avez plusieurs propositions. Alors voici mon premier modèle. Le travail est un gâteau qu'on doit se partager. Je veux dire par là, il y a une quantité de travail disponible totale. Il y a une quantité totale de travail disponible, elle est là. Et il faut se la partager. Hein? Elle est là. Comme un bon, et nous sommes, et le gouvernement est un bon père de famille qui a un gâteau à partager. Il en donne une part à l'un, une part à l'autre. Et comme tout bon père de famille, il privilégie bien entendu ses enfants parce que c'est son devoir. Alors ça, c'est le modèle 1. Le travail, il y a une quantité totale de travail disponible. Et il faut la partager. Alors, si c'est ça le travail, c'est le premier modèle, alors on peut faire des maths très facilement. Vous voyez bien que la quantité totale de travail est égale à la quantité de travail faite par les immigrés, la quantité de travail plus la quantité de travail faite par les Français. La somme est constante. Et donc, si vous voulez augmenter la quantité de travail faite par les Français, il faut diminuer la quantité de travail donnée aux immigrés. Ça paraît tout clair. Hein, vous pouvez même écrire des équations, si vous ne le croyez pas. Travail des Français égale travail total moins travail des immigrés. Donc, s'il y a zéro immigré, etc., vous voyez bien, on peut faire des maths. Dans le même ordre d'idées, vous pouvez dire à ce moment-là, ça explique que les 39 heures vont créer du boulot. Parce que le travail total et le travail qui était fait auparavant en 39 heures va être réparti entre le travail fait en 35 plus le travail fait en 4 heures. Et donc, le travail fait en 4 heures, donc le nombre d'emplois créés correspondra exactement à la différence, etc. Vous m'avez compris. Et ça, c'est le modèle 1. Première conception du travail, c'est un gâteau à partager. Mais il y a une deuxième conception du travail. Le travail, c'est un carburant. Alors, quand maintenant, il y a une deuxième conception du travail qui consiste à se dire, après tout, le travail, c'est pas un bien de consommation, c'est pas quelque chose qu'on mange, c'est pas quelque chose qu'on consomme. Le travail est un facteur de production. Le travail, ça sert à produire autre chose. Donc l'analogie propre qui convient, ça consisterait à dire, il y a un moteur qui est l'économie. Voilà, il y a ici un moteur qui est l'économie. C'est un moteur qui tourne. Et le travail, c'est comme du carburant que vous mettez dedans. Augmenter, mettre plus de carburant. Et le moteur tourne suivant ses propres règles. C'est ce qu'on appelle en économie l'équilibre. Et si vous augmentez la quantité de travail, vous augmentez, il y a un nouvel équilibre qui s'instaure. Le moteur tourne plus vite. Tournant plus vite, il permet de faire plus de choses. Tournant moins vite, il permettra de faire moins de choses. Donc, le travail, augmenter l'offre de travail, on peut penser que ça permet de produire davantage et de conduire à une redistribution globale. Comment on peut faire plus de choses? On peut peut-être donner plus à tout le monde, y compris aux nouveaux. Vous voyez, si les immigrés arrivent, eh bien, à ce moment-là, il y a plus d'essence dans la machine, et peut-être on peut espérer que la machine, en tournant plus vite, permettra de produire plus de choses, on pourra donner. On n'aura pas à prendre aux uns pour donner aux autres. Comme on produit beaucoup plus, on pourra donner à ceux qui arrivent et peut-être plus à ceux qui étaient déjà là. Ça se place maintenant dans un système autrement différent, tout à fait différent. Hein. Vous voyez, maintenant, le modèle mathématique, je ne l'écris pas, ça consisterait à dire, vous avez une sorte de moteur qui tourne et vous injectez dedans du carburant. Et l'analogie, si vous voulez, de l'offre de travail, c'est la pédale d'accélérateur. Vous réglez la pédale d'accélérateur, vous appuyez sur la machine ou que vous relevez la pédale, eh bien, ça tourne plus ou moins vite. Chacun sait que si on appuie trop vite sur la pédale d'accélérateur, le moteur peut caler, il peut y avoir des trucs comme ça. Mais les modèles sont différents. Et les équations mathématiques auxquelles ça conduit sont d'un type tout à fait différent. C'est plus du type un truc qu'on partage plus moins, c'est plutôt des équations du type l'offre pour une telle quantité de travail disponible, l'offre est égale à la demande, etc., etc., etc. Mais vous voyez tout de suite que ces équations vont être beaucoup plus complexes, car l'offre et la demande sont influencées séparément et de manière complexe par la quantité de travail disponible. Donc ça, c'est l'autre conception du travail, le carburant qu'on met dans le moteur. Les équations du moteur sont très compliquées, et on règle, en réglant la quantité de carburant, on obtient des résultats différents. Et à ce moment-là, c'est plus du tout évident que c'est plus du tout évident que si on... que si on retire le travail des immigrés, c'est-à-dire qu'on relève la pédale, on aura de meilleurs résultats, ou bien qu'en créant... C'est plus évident du tout. Mais il y a encore autre chose. Il y a un troisième modèle, qui serait un modèle de gestion prévisionnelle de l'offre de travail. Parce que dans ce que j'ai dit là, je me suis situé, comme je vais parler d'équilibre, hein, je vais parler du moteur. On appuie sur la pédale et puis le moteur atteint son régime. Oui, mais ce n'est pas exactement comme ça, parce que nous, on veut aller quelque part. Hein, c'est comme un automobiliste, hein, il est là, il ne s'amuse pas à être assis avec sa voiture au point neutre et à régler sur le... et appuyer sur la pédale. Hein, lui, il fait autre chose. Il veut aller quelque part. Alors maintenant, si on regarde l'offre de travail, on peut constater que on peut produire du travail. Vous voyez, c'est ça l'idée économique, l'idée nouvelle qu'on peut avoir. Le travail, on avait dit d'abord, il y a une quantité disponible. On a dit maintenant que c'est du carburant. Mais maintenant, j'ai dit autre chose, on peut fabriquer du travail. Comment est-ce qu'on fabrique du travail? On fabrique du travail par l'éducation. Si je vais à l'école, si j'apprends un métier, etc., etc., je change ma quantité de travail, un travail plus qualifié, un travail moins qualifié, etc. Si vous voulez avoir du travail qualifié, vous éduquez les gens, etc., c'est bien produire du travail. On peut produire du travail en qualité, on peut produire du travail en quantité. Comment on produit du travail? Par ailleurs, vous faites des investissements. Si j'investis pour construire une usine, d'automobile ou je ne sais quoi, quand l'usine fonctionnera, dans 30 ans ou dans 5 ans, il y aura du travail. Donc le travail, ce n'est pas un truc qui est donné, qu'on extrait du sol, c'est aussi quelque chose qu'on produit, avec des effets de retard. Hein, les investissements que je fais aujourd'hui porteront leurs fruits dans un an, etc. Et à ce moment-là, on rentre encore dans un modèle compliqué où tous les petits moteurs de tout à l'heure sont connectés par des flèches qui disent « Les mesures que je prends aujourd'hui vont avoir des effets là-dedans, donc augmenter l'offre, les mesures que je prends aujourd'hui vont augmenter l'offre de travail, diminuer l'offre de travail de telle ou telle qualité dans 10 ans, etc. etc. » Donc vous avez une sorte de chaîne. En d'autres termes, là, les acteurs gèrent l'offre de travail au fil du temps. C'est une, en mathématiques, on dirait qu'on a passé du statique au dynamique. Et c'est vrai que, par exemple, l'individu choisit son niveau d'éducation, sa formation professionnelle, son épargne. Il met de côté aujourd'hui pour quand il sera vieux. Les entreprises, elles choisissent leurs activités. Elles abandonnent des activités, elles en créent une autre. Tout ça, ça affecte l'offre de travail. La société choisit ses investissements publics, elle choisit si elle investit dans l'éducation, elle choisit si elle fait autre chose. Tout ça, hein, toutes ces décisions prises aujourd'hui influent sur la qualité et l'importance de l'offre de travail demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. Et ça, c'est un troisième modèle. Vous aurez, que je n'écris pas, là, si vous voulez écrire ça, vous devrez écrire des équations qui vont tenir compte de cette dimension. Il y aura des transferts, ce que je fais aujourd'hui va créer des transferts de période à période, ce que je fais aujourd'hui crée du travail dans un an, des transferts d'individu à individu, des transferts de génération à génération, hein, c'est-à-dire la retraite par répartition, hein, c'est bien le travail d'une génération qui nourrit le travail de la génération précédente. Donc il y a toutes sortes de transferts. Il y a des délais de réaction, on peut écrire les équations, mais vous comprenez que c'est encore tout à fait autre chose. Donc, trois concepts sur le travail, trois modèles du travail. Premier modèle, c'est le travail, il y a une quantité de travail disponible, on se la partage. Deuxième modèle, le travail, c'est un carburant, et il faut régler, voir si on met plus ou moins un carburant dans la machine pour savoir si on peut faire plus ou moins de choses avec elle. Et le troisième modèle, qui consiste à dire, le travail, c'est quelque chose qu'on va construire. Et il faut s'arranger pour que le travail... Si on veut qu'il y ait assez de carburant dans 5 ans, il faut prendre des décisions maintenant. Donc, trois modèles différents qui vont, bien entendu, conduire à des conclusions différentes. Ce sera à vous de décider... Donc, ce sera à vous de décider auquel de ces modèles vous accorderez votre confiance. Et ils conduiront, bien entendu, à des conclusions tout à fait différentes. Le modèle en lui-même ne dit pas s'il est vrai ou pas, c'est l'effort, ce sera à vous de voir, il y a des méthodes pour ça, les statistiques, etc. Et voilà. Et l'intérêt de la modélisation mathématique, Alors, j'ai fait une petite liste. Quel est l'intérêt de ce genre de choses? Alors, l'intérêt, alors, de la modélisation mathématique, voyez-vous, c'est d'abord, on affiche les hypothèses de base. Beaucoup de gens disent, les modèles mathématiques sont simplistes. Pris de croire qu'ils ne sont pas simplistes, ils sont beaucoup plus riches que la plupart des modèles implicites que les gens ont dans la tête. Évidemment, cette histoire, si les immigrés prennent le travail des Français, ou le passage aux 35 heures va diminuer, va créer des emplois, la plupart des gens qui disent ça, ils ont le modèle 1 en tête, hein. Le travail, c'est un truc disponible qu'on va se partager. Alors, quand vous nous présentez comme ça, on voit tout de suite que ça ne va pas. Mais dans le discours usuel, vous n'explicitez pas les hypothèses, c'est beaucoup plus difficile à déceler. Donc, le premier avantage du modèle mathématique, c'est que le type, la personne qui vous dit ça, il met sur la table ses hypothèses. La règle du jeu, c'est que vous les voyez. Et il n'a pas le droit, c'est comme un joueur de cartes, hein, il a ses cartes-là, il n'a pas le droit de prendre un autre paquet de cartes ici et puis de les sortir, hein, il y a quatre as sur la table, il n'a pas le droit de prendre un cinquième as ici quand ça le gêne et de le mettre là. Le deuxième, c'est que ça permet de communiquer sans ambiguïté. Quand je parle, là, on regarde les équations, tout le monde comprend ce qu'on veut dire. Le troisième, c'est qu'il permet de dominer la complexité. Dominer la complexité, je n'ai pas écrit les équations. Vous en doutez bien, je pourrais le faire. Mais vous vous doutez bien qu'elles ne sont pas simples quand il faut relier toutes ces périodes les unes après les autres, etc., etc. Et les mathématiciens ont 30 siècles d'expérience pour trouver des méthodes qui permettent de traiter ce genre de complexité. Hein. C'est-à-dire, avec les méthodes mathématiques, on n'a pas à réfléchir. Hein. C'est des méthodes d'économie de pensée. On déroule des méthodes mathématiques et puis on arrive à traiter toute cette complexité qui serait extrêmement difficile à faire si on se servait uniquement de mots. Autre chose? Le modèle permet de vérifier la cohérence logique des conclusions que l'on présente avec les hypothèses que l'on a faites. Et ça, c'est comme un couteau qui a deux tranchants. Dans ce que je dis là, hein, c'est une lame qui a deux tranchants. La première lame, c'est que quand quelqu'un vous présente une conclusion en disant le modèle dit ça, eh bien la conclusion ne vaut pas plus que les hypothèses qu'il a faites au début. Comprenez bien que les trois modèles que j'ai présentés donneront trois conclusions différentes. Et les conclusions ne valent pas plus que ne vaut le modèle lui-même. Ça, c'est le premier tranchant. Le deuxième tranchant, c'est que si vous croyez au modèle, vous devez croire à toutes ses conséquences. Et si, par exemple, vous croyez au modèle numéro 1, alors vous devez croire qu'en diminuant le travail des immigrés, on augmente le travail des Français, vous devez croire ça. Et vous devez croire aussi que le passage aux 35 heures augmente les emplois. C'est le même modèle. Hein, si vous pensez qu'il y a une quantité totale de travail disponible, eh bien, la plus élémentaire logique vous conduit à dire que, eh bien, si un immigré prend du travail, eh bien, un Français ne l'aura pas, sauf s'il y a plein d'emplois, et que si on passe de 39 à 35 heures, eh bien, il y aura plus de travail pour tout le monde. Hein, donc, deux tranchants. Les conclusions ne valent pas plus que l'hypothèse. Et d'autre part, avec les hypothèses, si vous croyez aux hypothèses, vous devez croire à la suite. Et enfin, un intérêt qui n'est pas le moindre là-dedans, c'est que ça évacue les jugements de valeur. Eh bien, il y en a qui. On ne prend pas le problème par le bout, par un bout politique, quoi que ce soit. Ce que je vous dis là, vraiment, pas de jugement de valeur sur c'est bien, pas bien, etc. Non, on a des conclusions qui ne font pas intervenir de jugement de valeur. Alors voilà un intérêt de la formalisation mathématique. Et c'est bien, oui. Je voudrais parler un peu de ce qu'apporte maintenant de l'autre partie, si vous voulez. Je vais peut-être revenir sur mon problème de départ pour que vous voyez bien. Je vous ai présenté la notion de modèle. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'apport de l'économie aux mathématiques. Alors, quel est-il? Eh bien, il est dans la nouveauté des modèles issus de l'économie. Les mathématiciens ont l'habitude des modèles. Hein. Cette démarche modélisatrice que je vous ai présentée n'est pas propre à l'économiste. Hein. Les physiciens font la même chose. Hein, si on veut modéliser un cristal de fer, eh bien, on prend un modèle mathématique, etc. Cette démarche est la démarche générale des sciences exactes. On construit un modèle et donc, il y a des modèles très célèbres en physique, le modèle de Newton, le modèle de Boltzmann. Donc, les mathématiciens ont l'habitude des modèles qui viennent de la physique. Et il y a un point commun entre les modèles issus de la physique et ceux issus de l'économie, c'est ce que j'appelle l'individualisme méthodologique. Au sens suivant, en physique, vous construisez des choses grandes, de gros objets à partir d'objets plus petits. Vous dites un solide est fait d'atomes. En économie, vous construirez des choses grandes à partir de choses petites, c'est-à-dire, vous direz, la société est faite d'individus. Le point de départ, c'est l'individu. La théorie, et cette théorie-là, est une théorie de l'individu. L'individu est l'atome de cette construction. Donc ça, c'est un point commun. Hein. Le problème de l'économiste, maintenant, est de dire, avec les propriétés, voir quelles sont les propriétés des individus, et avec ça, de comprendre les propriétés des sociétés, comme le problème du physicien était de partir des propriétés des atomes et de voir les propriétés des solides. Je schématise, bien entendu. Alors, voilà les similarités. Maintenant, les différences. Alors, quelles sont les différences? Eh bien, la première, l'intentionnalité. C'est-à-dire que nous, un physicien, il travaille sur des atomes. L'atome ne sait pas ce qu'il fait. L'atome, il n'a pas d'intention, il n'a pas d'esprit, etc. Il subit. Mais l'individu, lui, il sait ce qu'il fait. Il fait des choses pour quelque chose. Pour vous donner un exemple, s'il y a le feu dans cette salle, l'air chaud s'échappera en raison de la thermodynamique, etc. Mais vous sortirez aussi. Pas pour les mêmes raisons. Vous aurez une raison de sortir. D'accord? Il y a une intentionnalité dans ce cas-là qu'on n'a pas dans l'autre. Même si le résultat est très semblable. Alors, maintenant, pourquoi je dis nouveauté pour les maths? Parce qu'il y a des outils mathématiques qui permettent de traiter ça. Alors, je les mentionne à chaque étape. En ce qu'il parle de l'intentionnalité, c'est l'individu sait ce qu'il veut et agit en conséquence. Outils mathématiques, l'optimisation. La théorie de l'optimisation qui permet de traiter ce genre de choses et qui a été développée pour ça. Autre nouveauté, le comportement stratégique. Alors, le comportement stratégique, c'est la chose suivante. Eh bien, dans beaucoup de circonstances, on peut aller dans les relations entre les hommes, on peut aller assez loin après les personnes humaines, les êtres humains, excusez-moi. Eh bien, on va tenir compte des réactions d'autrui. En d'autres termes, je ne sais rien de monsieur qui est en face de moi et qui d'ailleurs regarde juste l'écran, mais nous pourrions jouer aux échecs ensemble. Ça ne nous gêne pas, hein, je ne sais pas du tout quel est son nom, ce qu'il aime lire, etc. Mais ça ne nous gênera pas du tout pour jouer aux échecs, ni pour faire la plupart des choses de la vie quotidienne, parce que je sais qu'il est comme moi, qu'il raisonne, et donc je peux me mettre à sa place et dans beaucoup de choses, etc., etc., etc. Donc beaucoup dans le comportement humain, repose sur cette idée que chacun de nous se connaît, sait que l'autre est comme lui, et que ça nous permet de prévoir nos réactions réciproques. Exemple, le jeu d'échecs. Mais ça va beaucoup plus loin. Il y a toute une théorie mathématique. Alors, outils mathématiques, la théorie des jeux. La théorie des jeux qui ne se limite pas, contrairement à ce qu'on pense, aux jeux de société comme le jeu d'échecs, et qui ne se limite certainement pas au conflit, mais qui permet de traiter des situations de coopération. Dans beaucoup de cas, nous avons intérêt à coopérer, et notamment en économie. Et par exemple, la nouveauté des modèles issus de l'économie, également, c'est l'idée des échanges mutuellement profitables. Les échanges mutuellement profitables, ça, c'est le deuxième miracle de la théorie économique. Le premier miracle de l'économie, c'est la production. C'est quand même très curieux de penser qu'à partir d'une planète hein, où il y avait essentiellement des arbres, des choses de ce genre, je ne sais pas, on arrive à construire des salles. Bon, tout ce résultat de l'activité humaine n'était pas là au départ, c'est vraiment la production. Hein. On arrive à créer des choses qui n'étaient pas là avant. Et l'autre chose, c'est les échanges mutuellement profitables. L'échange mutuellement profitable, c'est moi, j'ai 3 tonnes de pain, madame a 3 tonnes de beurre, et puis on se rencontre au milieu du désert. Je serai plus heureux nous serons beaucoup plus heureux l'un et l'autre si on partage en deux. Parce que je serai plus heureux d'avoir 1,5 tonnes de pain et 1,5 tonnes de beurre que d'avoir 3 tonnes de pain sec. C'est un échange mutuellement profitable et nous en avons des exemples tous les jours dans la théorie économique. Et la formalisation de ceci est assez intéressant parce que ça n'a l'air de rien, mais ça nous permet notamment de formaliser la notion de non-gaspillage. C'est-à-dire que on sait dire de manière très précise ce que ça veut dire ne pas gaspiller. Ça n'a l'air de rien, mais c'est la seule notion fondamentale de l'économie qui soit formalisable de cette manière-là. À titre d'exemple, pour que vous compreniez ce que je veux dire, personne ne sait ce qu'est la justice. La justice, il n'y a pas de formulation analogue, on est un peu dans le flou, ça dépend beaucoup des gens. Le non-gaspillage, tout le monde comprend ce que ça veut dire, c'est une notion comprise mathématiquement sous le nom d'optimum de Pareto, tout le monde est d'accord. Et enfin, donc, outil mathématique, l'optimum de Pareto, et enfin, une dernière chose qui est tout à fait intéressante et qui est conduite à des développements extrêmement modernes, c'est la théorie de l'asymétrie d'information. La symétrie d'information, c'est très clair. Hein? Vous entendez ce que je dis, vous lisez ce que j'écris, mais vous n'avez aucun moyen de savoir ce que je pense. De même que vous êtes là, vous m'écoutez poliment, mais je n'ai aucun moyen de savoir ce que vous pensez. Donc, ce qui crée un problème de communication, parce qu'on a quand même intérêt à communiquer. Bon, ce qui cause beaucoup de problèmes, c'est un des grands problèmes de la théorie économique. Par exemple, que vous relevez, par exemple, dans toute la théorie des impôts, de la fiscalité, des choses comme ça, hein, si on savait combien les gens sont disposés à payer pour l'éducation, etc., ce serait très facile. Hein, malheureusement, on ne le sait pas. Et si vous leur demandez, ils disent qu'eux, ils veulent tout sans rien payer. Hein, donc, Mais l'asymétrie d'information, c'est la direction que prend actuellement la théorie économique, et on commence à développer les outils mathématiques qui permettent de la traiter. Et à mon avis, c'est un développement le plus intéressant que nous aurons parce que c'est ce qui va permettre de réintégrer tout ce qu'on appelait l'économie politique dans le contexte économique général. Par exemple, maintenant, on a beaucoup de modèles de la Constitution, par exemple, toute la théorie de l'équilibre des pouvoirs suivant Montesquieu, la Constitution de 1776 aux États-Unis, etc., etc., etc. Vous pouvez en construire des modèles en vous servant de cette idée d'asymétrie d'information. Alors voilà ce que je voulais dire sur l'apport de l'économie aux mathématiques. Ça, c'est qu'on ait développé des outils qui permettent de traiter ce genre de questions. Maintenant, ça va? C'est l'outil mathématique, on les développe. On les développe, excusez-moi. Alors maintenant, l'apport des mathématiques à l'économie. Alors j'en vois 3, et je donnerai, je pense, des exemples de chacun, peut-être pas du premier. Alors tout d'abord, une clarification de la pensée. Une clarification de la pensée, au sens où des concepts économiques fondamentaux qui ont toujours existé, enfin, qui ont existé depuis plusieurs siècles, comme l'équilibre économique. L'équilibre économique, c'est l'égalité de l'offre et de la demande sur tous les marchés simultanément. Vous avez un équilibre économique quand, sur le marché des chaussures, l'offre de chaussures est exactement égale à la demande de chaussures, et en même temps, sur le marché des conférences publiques, l'offre de conférences publiques est exactement égale à la demande de conférences publiques. Ça, c'est une notion qui existe depuis très longtemps. Et la modélisation mathématique permet, non pas de dire qu'elle est juste ou fausse, hein, mais de donner les limites du concept. C'est-à-dire que nous savons maintenant que la notion d'équilibre n'est pas vraiment compatible avec des rendements croissants, que n'est pas compatible avec l'asymétrie d'information, par exemple, hein, si les acteurs ne disent pas tout ce qu'ils savent, ou s'ils cachent des choses, alors l'équilibre ne sera pas atteint, etc., etc. Donc, des notions, et que ça précise les limites de certaines notions économiques et l'usage de certains concepts. L'apport des mathématiques à l'économie, ce sont des outils de prévision. Des outils de prévision, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que l'économie permet de prévoir? L'air de dire, bien sûr, chacun sait que ça ne permet pas de prévoir et que donc c'est le domaine de la fantaisie la plus totale. Non, 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 ça permet de prévoir. Hein. Je vais vous donner un exemple. Hein. C'est pour ça que c'est une science. Hein. C'est parce qu'on peut faire des prévisions et vérifier les prévisions. Si les prévisions ne sont pas bonnes, c'est la théorie qui est mauvaise. Il faut la jeter et prendre une autre théorie. Mais si on ne pouvait pas faire de prévisions, eh bien, il serait très difficile de valider la théorie. Je vais vous donner un exemple dans un instant. Et enfin, elle donne des outils de création. Alors là, la réalité industrielle et sociale d'aujourd'hui, disons, je pense qu'on ne réalise pas et que la plupart des gens ne réalisent pas à quel point nous vivons dans un monde qui est totalement artificiel. Artificiel, je ne l'entends pas en un sens négatif, hein, ce n'est pas, c'est-à-dire que là, toutes les choses qui nous entourent sont construites par l'homme. À savoir, cet amphithéâtre, bien entendu, est construit, ceci est construit, etc. Mais le système social dans lequel nous vivons est construit aussi, hein. La constitution de la République, elle n'est pas tombée du ciel. Hein. Elle a été votée, etc. Des gens y ont travaillé, etc. C'est un cadre qui a été construit. La sécurité sociale, ça a été construit. L'origine des recettes, des retraites, ça a été construit, 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 construit. Donc, toute la société dans laquelle nous vivons est une société qui est totalement... Il n'y a pas de société naturelle. Hein. De toute façon, le concept même, mais aujourd'hui plus qu'avant... La société dans laquelle nous vivons, dans ses moindres règles, est une société construite et on rentre, la théorie économique moderne est un outil pour faire ça. Et on construit tellement que ce n'est même plus un outil de gestion, on dit toujours ça permet de gérer. Non, non, on construit des outils. On est rentré dans l'ère de l'ingénierie sociale et je vais revenir sur ce point dans un instant. Alors laissez-moi vous donner des exemples. En ce qui concerne la clarification de la pensée, j'avais préparé quelque chose sur la valeur travail, et s'il me reste du temps, j'en parlerai, mais enfin, je pense que je vais le passer. Et je vais aller directement à la question de la prévision. Alors, je vous dis que l'économie est une science, et on peut donc faire des prévisions. Alors, allons-y, je reviens à ma bonne vieille question. Ah, maintenant, vous avez eu le temps, hein. Ça fait combien de temps que je parle, madame? Ça fait... Eh bien, il me reste 10 minutes, hein. Donc ça fait 40 minutes. Alors bon, maintenant, vous avez sûrement une idée. Alors je fais ça comme ça parce que si je vous annonce le résultat, quand on fait des prévisions, les gens disent « Ah oui, c'est bien sûr, c'était évident. Hein, » quand on vous dit le résultat, et on a toujours 36 raisons pour comprendre que c'est comme ça. Oui, mais là, je vous le dirai après. Donc maintenant, regardez. Hein, donc je vais tout expliquer sur le penalty. Alors quand je vous dis qui fait le plus souvent, je veux dire que nous avons fait, hein, on a un modèle théorique, enfin, quoi, un « on ». On a un modèle théorique qui est dû à Chiappori et Leavitt. Je vous donne la référence, c'est tout récent. Si des renseignements sur le foot vous intéressent comme moi, je vous donne une adresse. Vous avez une adresse web. Et la question est, je vous rappelle, hein, vous êtes le gardien. Vous savez que pendant un certain, vous savez que tous les tireurs qui sont devant vous, pendant il y a une certaine chance de tirer au milieu, mettons 10% de chance de tirer au milieu, vous, s'il y a 10% de chance de vous tirer au milieu, eh bien, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester au milieu 10% du temps, ou 5% du temps, ou 20% du temps? Quel est votre intérêt? C'est la question à 100 millions de francs, hein. Et oui, hein, le penalty, un penalty sauvé, la dernière Coupe de France. Vous avez une idée? Ça vous paraît évident? Pardon? Oui, d'accord, mais dans quelle proportion? Il faut bouger. Ah, attendez, oui, mais... Ben, je vous donne la réponse. Alors, je vous dis... Mais vous ne savez pas s'il va tirer juste au milieu. Alors, je vous pose la question, qui choisit le centre le plus souvent? Qui pense que le tireur choisit le centre le plus souvent? Non, non, attendez. Je ne dis pas que le gardien va rester au centre tout le temps. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'il va rester au centre un certain nombre de fois, peut-être 7 fois sur 100. Hein, je n'ai pas les chiffres en tête. Peut-être 7 fois sur 100. Mais je vous dis, le tireur, lui, va tirer au centre. Mais est-ce qu'il tirera au centre 5 fois sur 100 ou 9 fois sur 100? C'est ça ma question. Je suis clair? Alors, qui choisit le poteau? Bon, écoutez, je vous donne la réponse. Ça ne paraît pas évident. Hein? Alors, vous pensez que quelqu'un pensait le gardien? Le gardien, bon. Vous, le gardien ou le tireur? Le gardien. Très bien, voici les réponses. OK? Bon. Je choisis cet exemple parce que c'est le résultat d'un modèle de théorie des jeux. C'est vérifié, on a fait faire ça pendant l'été, on a regardé les pénalties, on a analysé, très bien. Je peux vous donner des exemples beaucoup plus compliqués. Hein. Je peux vous donner des équations qui rempliront le tableau et vous expliquer que c'est vérifié empiriquement. Mais voilà un modèle très simple. Là, voilà. Le tireur, là, en rouge. Parce qu'on ne voit pas le rouge, excusez-moi. Qui choisit le centre le plus souvent? C'est le tireur. Et qui choisit le plus souvent le bon pied du tireur? C'est le gardien. Donc, si vous avez un tireur dont le bon pied est le droit, eh bien, le gardien qui est en face du véhicule le sait, sautera de ce côté-là, plus souvent que lui ne tirera effectivement de ce côté-là. Voilà. Alors, voici donc prévision, j'appelle ça un comportement économique, excusez-moi, parce que, je vous rappelle, ce sont des professionnels, ils s'entraînent pour faire ça, et ça peut rapporter 100 millions de francs à leur club. Hein. Donc, c'est un comportement réfléchi. Sur l'ingénierie sociale, je voulais vous parler un instant de la théorie des options. Alors, je vous dis que ça change le contexte dans lequel nous vivons. Alors, un mot sur les options, peut-être. Eh bien, une option, c'est un produit financier qui vous garantit un prix pour une action, pour un autre produit financier dans un temps défini. Par exemple, si vous détenez des actions de la société X, comme c'est enregistré, et que vous pensez que je suis économiste, je ne dirais pas... Je ne citerai pas de nom. Si vous donnez des actions de la société X et que vous avez peur, vous les vendrez en 3 mois, vous avez peur que ça baisse, eh bien votre banque vous vendra des options qui vous garantira ce prix dans 3 mois. Vous pouvez vous garantir. Ça s'appelle une option. Alors, à cause de ça, disons, vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle la sphère financière. Vous savez que les sommes échangées en un jour sur la bourse de New York dépassent de beaucoup le budget de la France, des choses de cet ordre. C'est à cause de la théorie des options. Et c'est à cause de l'existence de ces produits qui existent depuis 1973 et qui ont un effet très positif parce que leur effet est que des gens qui ne veulent pas, ça permet à des gens d'éviter de prendre des risques. Si vous êtes négociant, si vous êtes industriel que vous fabriquez des gants à millions et que vous vendez et que vous les vendez aux États-Unis, votre métier, c'est pas vous vous couvrez contre la hausse du dollar. Hein. Donc, vous allez à une banque et vous dites, vous me garantissez un taux sur le dollar. Elle vous le vend, etc. C'est des options. Vous avez transféré votre risque à des professionnels. Bon, ne rentrons pas là-dessus, mais enfin, voilà un produit industriel. Industriel. L'industrie financière est une des exportations majeures de notre pays. Alors, toute cette industrie repose sur une formule que je ne suis pas arrivé à sortir sur mon ordinateur, donc je l'ai écrite à la main, vous admirerez mon écriture. Voilà. Alors, on ne le voit pas en plus, c'est peut-être mieux. C'est la formule de Black et Scholes. C'est le prix à l'instant T d'un call sur une action dont le prix à cet instant est S. Et puis, je vous le lis parce que ce prix est égal à S, qui est le prix, qui multiplie N de D moins K, E puissance moins R, T moins T, N, D moins S, racine de T moins T, où chacun a reconnu dans N de D, qui est ici la fonction cumulative de la variable gaussienne réduite, et où D est une formule qui n'est pas très compliquée, puisqu'elle est une fraction rationnelle, et dans laquelle vous voyez intervenir K, le prix d'exercice de l'option, T, la date d'exercice, et sigma, qui est ici, et qui est la volatilité du cours de l'action. Bien, ça ne vous parle peut-être pas, mais je vous garantis que sur les marchés financiers, tout le monde connaît cette formule. Et si vous achetez un petit calculateur, il est dedans. Bien, pour ça pour vous dire que des modèles mathématiques, on n'a pas nécessairement affaire à des modèles mathématiques triviaux. Plus simple peut-être, dans le domaine de l'ingénierie sociale, la théorie des enchères. Alors, qu'est-ce que c'est que quel est le problème? Alors, le problème est un problème typique d'asymétrie d'information. Alors, quand... Voilà. Vous êtes dans une situation, ça traite des situations où le vendeur, quelqu'un vend quelque chose et il ne sait pas la valeur de ce qu'il vend. Vous me dites, c'est quand même curieux. Ah, exemple, non, c'est la situation très fréquente. Le vendeur, c'est l'État. Alors, pour que vous voyez ce que ça veut, pour que vous voyez à quoi ça correspond, je vous rappelle qu'on a vendu récemment les licences de téléphones mobiles de la troisième génération. Nous avons une autorité de régulation qui dépend de l'État, une agence, qui a estimé le prix. Alors ça, c'est quelque chose, l'État accorde des licences aux opérateurs, c'est-à-dire il accorde des licences, donc il le vend et il va le chiffrer. Ce prix avait été chiffré par l'agence nationale à 10 milliards de francs au mois de mars. Le mois d'après, la Grande-Bretagne a fait des enchères qui ont rapporté à peu près 350 milliards de francs. Ce qui fait que le mois d'après, l'estimation de l'État était remontée à 130 milliards de francs. Pourquoi? Ce n'est pas que les gens sont malhonnêtes ou quoi que ce soit. C'est simplement que ce n'est pas les opérateurs de télécommunications qui vont dire à l'État ce qu'ils sont prêts à payer. Vous-même, quand vous allez faire une bonne affaire, vous n'allez pas dire au vendeur, écoute, donne-moi plus cher. Pas du tout. C'est classique. Et c'est un problème absolument classique que l'on a, par exemple, quand on construit un porte-avions, quand on construit un char d'assaut, quand on construit un avion. L'État achète des choses ou vend des choses dont il ne connaît pas la valeur. Classique. Et vous voyez, la première estimation était 10 milliards. On est passé à 130. Pour vous donner une idée des chiffres, l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans ce pays, c'est de l'ordre de... c'est de l'ordre de 500 milliards de francs par an. Donc 150 milliards de francs, c'est 150 milliards de francs, c'est le tiers de l'impôt sur le revenu d'une année. Pour vous, vous divisez par 3 l'impôt que vous avez payé, c'est ce que ça représente pour vous. Alors maintenant, comment faire? Comment régler ce genre de situation? Eh bien, la manière classique de régler ce genre de situation, développée aux États-Unis notamment, est de mettre en place des enchères. Alors, en utilisant les résultats mathématiques de la théorie des jeux, l'on est capable de construire des systèmes d'enchères très sophistiqués, dont le but est que, justement, les enchérisseurs soient conduits naturellement à proposer la valeur maximum qu'ils sont prêts à payer. Le but des enchères est de faire... On veut faire révéler aux gens la valeur maximum qu'ils sont prêts à payer. Je vous signale qu'on ne l'a pas fait en France, On l'a fait en Grande-Bretagne, même on ne l'a pas fait en France. Les 130 milliards de francs, ça a été réglé autrement. Et ces systèmes n'ont rien d'évident. Ils ont des règles particulières. Il me reste combien de temps? C'est particulière. Exemple de règles. Vous avez ce qu'on appelle des activity rules, c'est-à-dire... là je parle de la malédiction du vainqueur, l'enchère au second prix, qui sont des phénomènes assez connus sur lesquels je pourrais revenir, mais prototype de ce genre de choses, par exemple des règles d'activité. Une règle d'activité, par exemple, c'est qu'on contraint les enchérisseurs. D'abord, c'est règle simple, si vous n'avez pas enchéri sur une licence pendant un certain temps, vous perdez le droit d'enchérir dessus les tours d'après. Quand on vend des fréquences, eh bien, quand on vend des fréquences, on doit enchérir sur un certain nombre au moins, sinon on perd le droit d'enchérir sur d'autres au tour d'après. Et là, il y a des vrais problèmes mathématiques. Par exemple, on ne connaît pas la bonne forme que doit prendre ce genre d'enchère quand les licences sont complémentaires. C'est-à-dire quand le fait d'en avoir une, quand deux d'entre elles, quand il peut être avantageux d'en avoir deux. Exemple, quand vous avez des petites bandes de fréquences, il peut être avantageux pour l'opérateur d'avoir les deux bandes de fréquences côte à côte que d'en avoir une là et une là. Ça, ce genre d'enchères, on ne sait pas les faire. Ça pose des problèmes mathématiques extrêmement intéressants, mais on sait quand même traiter un grand nombre d'autres cas. Et j'arrive donc à ma conclusion, qui dit que tout ça est un domaine absolument merveilleux. puisqu'il combine deux choses. D'abord, c'est l'intelligence de notre société. Comment tourne cette société? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même beaucoup plus intéressant de savoir comment les hommes et les sociétés fonctionnent que de savoir comment fonctionne un liquide ou un solide ou un gaz. C'est quand même prodigieux. D'autre part, les raffinements des mathématiques. C'est des mathématiques très sophistiquées et d'un type tout à fait différent de ce que font de ce qu'on a en physique. Il y avait des rapprochements totalement inattendus. Par exemple, on parle toujours de l'école de Chicago, les libéraux, etc. Les libéraux, l'école de Chicago est très proche de Karl Marx. L'un et l'autre disent que l'État est un instrument entre les mains de gens qui en profitent. Pour Karl Marx, ce sont les classes sociales. Pour les libéraux de Chicago, ce sont les groupes de pression, ce sont les lobbies. Ils le disent. Mais malheureusement, ce domaine a du mal à se développer en France. Moi, j'y vois une implication économique, d'une part, parce que il y a une grande hostilité de corps et de monopoles qui voient très mal leurs privilèges et leurs rentes remises en cause, ces histoires d'enchères. Nous avons un pays où il y a beaucoup de monopoles, beaucoup de rentes qui sont collectées. Alors qu'il y a des économistes qui disent que ce n'est pas bien, ce n'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde. Et d'autre part, les grands centres sont ailleurs, avec grande attraction intellectuelle et matérielle, de centres étrangers, Chicago, le MIT, la London School of Economics. C'est là que la plupart des choses se passent. Ceci dit, on a un très bon centre ici en France, à Toulouse. Je le signale pour ceux que ça intéresse. Je vous remercie. Merci beaucoup.